Épilogue. Le trésor d'Ernesto Brancoli avait été convoyé sous bonne escorte dans un coffre de la Banque de France. Des experts en avaient fait l'inventaire. Ils furent sidérés de la qualité des pièces trouvées dans la boîte. Plusieurs diamants d'une pureté exceptionnelle, des rubis, des émeraudes, des saphirs de toute beauté. Aucune de ces pierres ne figurait aux inventaires internationaux. Ce n'était pas étonnant. À côté du commerce légal entre les pays producteurs et les places diamantaires, existent des réseaux de trafiquants. Les pierres transitent clandestinement et sont taillées discrètement dans des ateliers n'ayant pas pignon sur rue. Ainsi, des sommes considérables d'argent, souvent douteux, peuvent s'investir en pierres précieuses. Un diamant de plusieurs carats représente une valeur monétaire considérable, avec un volume et un poids nettement moins importants que sa correspondance en or ou en platine. Il peut être caché et transporté facilement. Le trésor d'Ernesto Brancoli représentait plusieurs milliards de dollars. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions des hommes aient tué ou se soit entretué pour entrer en sa possession. Le commissaire Le Pennec était content de la découverte du Père Lachaise. C'était toujours une satisfaction pour lui d'arriver au bout d'une enquête. Néanmoins, le prix qu'avait dû payer la brigade lui semblait exorbitant. Aucune de ces pierres ne valait le prix d'un des officiers de police tombé sous les balles des mafieux. Bien sûr, ces derniers avaient succombé, à leur tour, sous les tirs de leurs rivaux américains. Mais cela ne ramènerait pas ces jeunes hommes qui allaient manquer à leur famille. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police manifestèrent au chef de la brigade criminelle leur satisfaction de voir cette affaire réglée. Après avoir été mis à l'écart, pour ne pas gêner les recherches et l'enquête, la presse s'en donnait à cœur joie. Bien sûr, au moment de la fusillade de la station-service, les services de police n'avaient pu empêcher des fuites. Mais on avait parlé à cette époque de grand banditisme. Le Pennec espérait, l'affaire éclatant au grand jour, que les réseaux russes et américains cesseraient de harceler la famille Marcilly, le trésor étant à présent entre les mains de la police. Les autorités américaines entrèrent en contact avec les autorités françaises. Les pierres précieuses récupérées au cimetière du Père Lachaise étaient le résultat de trafics illégaux perpétrés sur le sol des États-Unis. Dans ces conditions, tout cet argent devait être récupéré par le Trésor public américain. Juridiquement, cette demande ne pouvait être refusée par la France. Le secrétaire d'État des Affaires étrangères américain vint rencontrer son homologue français. Le rapatriement du trésor d'Ernesto Brancoli fut assuré sous haute protection aux États-Unis. Dans un bois en Mayenne, des promeneurs découvrirent les cadavres de deux hommes criblés de balles. Vu l'état de décomposition avancée des corps, la mort remontait à plusieurs semaines. Les photographies des visages furent montrées à Isabelle Marcilly. Sur l'une d'elles, la jeune fille reconnut le Mexicain. Une fois de plus, la réaction des réseaux avait été impitoyable. On ne pardonne pas les erreurs, à moins que ce soit la mafia russe. Encore du travail pour la brigade criminelle. Le secrétaire d'État des États-Unis ayant appris l'histoire des diamants d'Ernesto Brancoli et les tragédies qui les accompagnaient, fit envoyer aux familles des trois officiers de police des chèques qui leur permettraient d'assurer un avenir matériel plus sûr. Isabelle Marcilly avait retrouvé son cher lycée. Le jour où elle s'installa à nouveau derrière son bureau et parcourut du regard sa salle de documentation, elle eut l'impression de se réveiller d'un cauchemar. toute cette histoire lui semblait irréelle, comme extérieure à sa vie. Pourtant, quand elle regardait sa main, elle savait bien que tout cela était arrivé. François Marcilly continuait de poursuivre ses recherches, dans le plus grand secret. Rien n'avait été dévoilé de ses activités. La presse n'avait parlé que des activités délictueuses de son père. Il aurait aimé qu'elle demeure cachée, mais son organisme de tutelle avait préféré que les journalistes s'acharnent sur cet épisode plutôt que sur la fusion nucléaire. Quant à Margaret Marcilly, elle avait retrouvé son emploi du temps de grande bourgeoise. Le dimanche, elle retournait au marché de la Motte-Piquet, mais elle ne pouvait pas passer à l'endroit de son enlèvement sans une angoisse latente et évitait de regarder l'endroit où avait eu lieu la tuerie. Wilfried Liebermann pouvait profiter pleinement d'Isabelle et les jeunes gens décidèrent de se marier au plus vite. Le mariage eut lieu dans la mairie du 14e arrondissement. Les mariés avaient convié le commissaire Le Pennec ainsi que le commissaire Dubillard, le proviseur, M. Mirepoix, et le lieutenant Grominet avaient accepté d'être les témoins du marié. La salle était pleine, pratiquement tous les collègues du lycée y assistaient. Au troisième rang, les « cristaux » entre guillemets, avaient revêtu pour la circonstance un costume avec cravate. Au fond de la salle, un petit Asiatique, lui aussi endimanché. Les autorités avaient remercié par un virement discret et aujourd'hui légal sa part active dans la résolution de l'affaire. Devant l'assemblée, les deux mariés avaient prononcé leur consentement. La cérémonie était terminée et chacun venait féliciter les jeunes époux. Un homme, les cheveux courts, s'avança alors vers Wilfried Liebermann et Isabelle Marcilly. « Madame Liebermann, puisque c'est ainsi que je dois à présent vous appeler, toutes mes félicitations ainsi qu'à votre mari. Je me présente, Walter O'Brien, attaché à l'ambassade des États-Unis. Madame la secrétaire d'État m'a chargé de vous remettre ceci. » L'attaché sortit de sa poche un écrin et l'ouvrit. Apparut une bague en or surmontée d'un magnifique diamant. L'Américain prit le bijou et souleva la main gauche d'Isabelle, figée par la surprise, et enfila la bague. La secrétaire d'État a pensé que ce bijou, prélevé dans le trésor d'Ernesto Brancoli, pouvait être une compensation aux souffrances que vous avez endurées à cause de lui.